Émile Cioran, qui est donc ce philosophe parisien qui a été défini par Saint-Jean Perse comme le plus important styliste de la langue française après Valéry? Qui est-ce donc ce penseur nihiliste que l'on a accusé d'être un danger public pour la jeunesse, tel un nouveau Socrate? Cioran est né en 1911 en Roumanie. Bien qu'il ait quitté son pays d'origine déjà à la fin des années 30, Cioran reste marqué jusqu'à ce jour. Les Balkans sont en effet un monde à part, un monde qui reste isolé de la civilisation occidentale. Il n'est donc point étonnant que Cioran ait présenté d'emblée un portrait d'homme de lettres différent, au négativisme sans compromis, à la lucidité maladive. Cioran, qui a publié une vingtaine de livres, débuta en 1933 avec Peculmile disperari, sur les cimes du désespoir, ouvrage qui contient en germe toute son œuvre future. Tout est en fait déjà là, l'angoisse existentielle, la hantise du néant, la nécessité du silence, le sentiment de l'irréparable, bref, tous ces fantasmes. Les titres de ces ouvrages en disent long sur le personnage. Précis de décomposition, syllogisme de l'amertume, la tentation d'exister, la chute dans le temps, ou bien encore, de l'inconvénient d'être né. Et pourtant, Cioran est bien loin d'être un odieux misanthrope. Peut-être pourrait-on affirmer qu'il exorcise son amertume dans ses livres, afin de vivre pleinement ses relations d'amitié, parmi lesquelles il compte depuis bien des années celle avec Ionesco et Beckett. Cet homme qui affirme qu'il ne se pardonne pas d'être né, cet homme qui refuse tout prix ou honneur public, a trouvé de par la négation le chemin vers autrui.
Je suis né dans un village, tout à fait dans la Carpaque, en montagne, à 12 km de Sibiu Hermannstadt. Et ce village, je l'aimais énormément. Et quand je l'ai quitté, ça a été pour moi, je dois dire, à 10 ans, j'ai quitté ça pour aller au lycée de Sibiu. Je n'oublierai jamais le jour, ou l'heure plutôt, où mon père m'a emmené à Sibiu. On avait loué une voiture à cheval, je pleurais. Je pleurais tout le temps, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Pour moi, les journées s'est réduisées à ça. Après le petit déjeuner, disparaître jusqu'à midi, je rentrais à la maison. Ensuite, une heure après, je disparaissais. Je suis dans la montagne, partout. Et ça a duré jusqu'à l'âge de 10 ans. Alors, il y a eu l'avantage de la guerre de 14. Mes parents avaient été déportés par les Hongrois, comme vous. Hein. Et j'étais resté, mon frère et ma soeur, Antoine, c'est une grand-mère qui s'occupait de nous, mais nous étions totalement libres. Et c'était l'époque idéale. Alors j'aimais beaucoup les paysans. Et plus encore que les paysans, vraiment les tchobans, c'est des bergers. Vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux. Et quand j'ai dû quitter ce monde, ce monde-là, pour moi, j'ai senti, j'ai eu un pressentiment que quelque chose s'est brisé pour toujours. Vraiment, j'ai pleuré, je n'oublierai jamais. Sibiu était donc à 12 km, 14 km de Rachina, comme c'est mon village. Et ça, c'est la catastrophe.
Donc vous vous êtes détaché de la terre.
De la terre, oui, et de ce monde primitif que j'aimais énormément. C'est le sentiment de liberté. Et alors, je suis allé donc à Sibiu, qui était une ville très importante en Autriche-Hongrie. C'est une sorte de ville frontière. Il y avait énormément de régiments, tout ce qu'on peut imaginer. Il y avait trois nationalités. Donc, c'était allemande, roumaine et hongroise, qui cohabitaient, je dois dire, sans drame. Et c'était curieux que ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Je ne peux pas vivre dans une ville où on ne parle qu'une seule langue. Ça je ne peux pas, n'est-ce pas, c'est ça, je m'ennuie tout de suite. Mais là, j'aimais justement cette diversité, que tu avais toi, culture, enfin, la vraie culture, c'est la culture allemande, et la hongroise, les Roumains, c'était au fond des esclaves qui ont été libérés, n'est-ce pas, après la guerre de 14, c'est un monde qui s'affirmait, mais qui était à ses débuts. Mais en tout cas, c'est après mon village natal, c'est la ville à laquelle je m'ai attaché énormément, c'était cette ville de Sibiu, Hermannstadt, ou Nockseben, en hongrois. Si le mot nostalgie, ça a un sens, c'est quand même c'est le regret d'avoir quitté une ville comme ça, et même d'avoir quitté mon village. C'est au fond le seul monde, véritable seul monde primitif, où tout est possible et rien n'est actualisé.
Ainsi, vous avez plusieurs fois perdu votre paradis terrestre.
Oui, plusieurs fois. C'est avoir abandonné mon enfance, et ensuite ma vie à Sibiu. Mais pour moi, Sibiu, pourquoi c'est une ville importante? Parce que c'est là que j'ai subi le grand drame de ma vie, n'est-ce pas, qui a duré plusieurs années, et qui m'a marqué. Alors pour le reste, tout ce que j'ai écrit, tout ce que j'ai pensé, tout ce que j'ai élaboré, toutes mes divagations trouvent leur origine dans ce drame. À peu près à 20 ans, j'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. C'est pas du tout d'être en prison, tu vois, tout ça ne me semble rien, à côté de ce drame qui était le mien, n'est-ce pas, qui a duré très longtemps. Pour moi, c'est les nuits de Sibiu, par exemple. C'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Je sortais vers minuit, vers une heure, et je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. Dans une ville, c'est le silence total, la province, etc. Et pendant des heures, je me promenais dans les rues, comme une sorte de fantôme. Et tout ce que j'ai pensé, tout a été élaboré, si vous voulez, pendant ces nuits. Et c'est à ce moment-là que j'ai écrit mon premier livre, qui est en roumain, qui s'appelle Pecul mie disperi, sur les signes de désespoir. C'est un livre que j'ai écrit à 22 ans, qui était une sorte de testament. Parce que je pensais qu'après, j'allais me suicider. Mais j'ai réussi à... J'ai survécu pour une raison très précise. C'est que je n'avais pas à pratiquer un métier. Parce que je ne pouvais pas. Et ça, c'est très important. Comme je ne dormais pas la nuit, comme je me promenais dans la ville, mais j'étais bon à rien pour la journée, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas pratiquer un métier. Je ne pouvais pas être professeur. Parce qu'on ne peut pas, quand on veille toute la nuit, on ne peut pas aller faire le pitre devant des élèves, etc., parler des choses qui ne vous intéressent pas, etc. Et pour moi, ces nuits de Sibiu, c'est ça l'origine de ma vision du monde. Je me rappelle que j'avais 20 ans, et un jour, ça c'est aussi un grand moment de ma vie, mon père étant prêtre, n'est-ce pas, ma mère n'était pas croyante, curieusement, ou à cause de ça. Et elle était beaucoup plus indépendante d'esprit que mon père. Mais je me rappelle, ça c'est un événement qui s'est passé pour moi, c'est extraordinairement important. J'avais donc 20 ans, pas tout le temps. Et un après-midi, avec ma mère dans la maison, c'était 2 heures d'après-midi, je me souviens parfaitement. Et en présence de ma mère, je me jetais sur le canapé de Jean-Paul.
Le passage pur du temps, le temps nu, réduit à une essence d'écoulement, sans la discontinuité des instants, c'est dans les nuits blanches qu'on le perçoit. Tout disparaît, le silence s'insinue partout. On écoute, on n'entend rien. Les sens ne se tournent plus vers le dehors. Vers quel dehors? Engloutissement auquel survit ce pur passage à travers nous, et qui est nous, et qui ne finira qu'avec le sommeil ou le jour.
Je ne pouvais pas pratiquer le métier, je ne pouvais pas être professeur. l'origine de ma vision du monde. Je me rappelle que j'avais 20 ans, et un jour, ça c'est aussi un grand moment de ma vie, mon père étant prêtre, n'est-ce pas, ma mère n'était pas croyante, curieusement, ou à cause de ça, et elle était beaucoup plus indépendante d'esprit que mon père. Mais je me rappelle, ça c'est un événement qui s'est passé pour moi, c'est extraordinairement important. J'avais donc 20 ans, et peut-être un peu moins. Et un après-midi, il n'y avait que ma mère à la maison. Il était 2h de l'après-midi, ça, je m'en souviens parfaitement. Et en présence de ma mère, je me jetais sur un canapé, je dis, je n'en peux plus. Et ensuite, ma mère m'a dit, si j'avais su, je me serais fait avorter. Et ça m'a fait une impression extraordinaire, mais pas négative. Au lieu de me révolter ou de comme ça, j'ai eu une sorte de sourire, je me rappelle. Et ça a été aussi une sorte de révélation. Donc, je suis le fruit d'un hasard, c'est aucune nécessité. Et ça a été, d'une certaine façon, une sorte de libération. Mais vous voyez, ça m'a marqué pour le reste de ma vie. Et ma mère, curieusement, elle a lu des choses que j'ai écrites en roumain, mais elle ne savait pas le français, elle ne savait que le hongrois. Et elle a toujours lisé ce que j'écrivais, et elle était plus ou moins, enfin, elle est plus ou moins acceptée. Mais mon père était très malheureux. Parce qu'il avait la foi, mais en fait, ce n'était pas quelqu'un de fanatique, pas du tout, c'était son métier d'être prêtre. Mais tout ce que j'écrivais le mettait mal à l'aise, et il ne savait pas comment réagir. Mais ma mère comprenait ça. Et alors, c'était que, au début, je méprisais ma mère. Mais un jour, elle m'a dit, pour moi, il n'y a que Bach. Et ça, à partir de ce moment-là, quand elle m'a dit ça, je dis, j'ai compris que je lui ressemblais. Et effectivement, j'ai été d'elle pas mal de défauts, mais aussi quelques qualités. Mais c'est des révélations qui marquent une vie. Et alors, c'est passé cette chose. Vous savez, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Des larmes et des saints ». C'est un livre que j'ai écrit plus tard, qui est apparu en Roumanie en 1937. C'est un livre qui a été extrêmement mal reçu. Extrêmement mal reçu. Premièrement, l'éditeur, au dernier moment, le livre était presque prêt. C'est à Bucarest, j'étais à Brașov à l'époque. Il m'a téléphoné pour me dire que finalement, il ne publiera pas mon livre, parce qu'il ne l'avait pas lu. Et c'est au moment de paraître qu'on a dit, mais est-ce que vous avez lu ce livre ? Alors, il a lu, il m'a dit, j'ai fait ma fortune avec l'aide de Dieu, je ne vais pas publier votre livre. Alors, ça c'est balkanique. Alors, je dis, mais c'est un livre profondément religieux. Il dit, peut-être, mais je n'en vais pas. C'était l'année où je suis venu en France.
C'était votre deuxième livre ?
Bon, le troisième, c'est le troisième. Et je lui dis, écoutez, je dois quitter, j'ai une bourse pour la France, n'est-ce pas, je dois aller à Paris dans un mois, etc. C'est possible, mais je ne veux pas de votre livre. C'est à ce moment-là que je suis allé dans un café, j'étais désespéré, parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire, de toute façon. Et finalement, j'ai trouvé un éditeur, pas un éditeur, un typographe, un imprimeur, qui m'a dit, je veux le faire paraître. Alors, j'ai quitté la Roumanie, je suis venu en France, et le livre a paru en 1937, à mon absence. Il a été extrêmement mal reçu. Par exemple, Eliade a écrit un article violent contre ce livre, etc. Et mes parents se sont trouvés dans une situation très délicate. Et ma mère m'a écrit à Paris, dit, je comprends ton livre, etc., mais tu n'aurais pas dû le publier notre vivant parce que tu mets ton père dans une situation très difficile. Et moi-même, qui suis président des femmes orthodoxes en ville, vous comprenez, on se moque de moi. Et alors, ils m'ont demandé comme service de retirer ce livre. Mais le livre a été publié sans éditeur. Le livre n'a pas été diffusé. Vous comprenez, vous savez, c'est un phénomène balkanique, on ne peut pas expliquer en Occident comment les choses se passent comme ça. Ce n'est pas du tout quel a été son destin, mais je crois qu'on a détruit à la plupart des exemplaires. Et alors, les choses curieuses, c'est ma mère qui a compris ce livre. Qui m'a dit, on voit chez toi, c'est la rupture intérieure, d'un côté blasphème, d'un côté nostalgie. N'est-ce pas ? C'est idiot de parler de ses parents, mais en fait, ça a un sens malgré tout. Celui est l'aboutissement d'une crise qui a duré 7 ans, de veille. C'est pour ça que j'ai toujours méprisé les gens qui peuvent dormir.
c'est absurde. Parce que moi, je n'avais que des yeux, je dormais, je ne pouvais pas. Seulement, j'ai compris une chose, c'est que c'est les lignes blanches qui sont de l'importance capitale. Parce que, regardez, la vie était simple. Les gens se passent la journée.
Bien plus que le temps, c'est le sommeil qui est l'antidote du chagrin. L'insomnie, en revanche, qui grossit la moindre contrariété et la convertit en coup du sort, veille sur nos blessures et les empêche de dépérir. Bien plus que le temps, c'est le sommeil qui est l'antidote du chagrin. L'insomnie, en revanche, qui grossit la moindre contrariété et la convertit en coup du sort, veille sur nos blessures et les empêche de dépérir.
Celui, l'aboutissement d'une crise qui a duré 7 ans de veille. C'est pour ça que j'ai toujours méprisé les gens qui peuvent dormir, n'est-ce pas? Mais c'est absurde. Parce que moi, je n'avais qu'un désir, c'est dormir. Je ne pouvais pas. Seulement, j'ai compris une chose, c'est que c'est les nuits blanches qui sont d'une importance capitale. Parce que, regardez, la vie était simple. Les gens passent la journée, le travail, sont fatigués. Ensuite, se couchent, ils se réveillent et ils commencent une autre journée. Et l'extraordinaire phénomène de l'insomnie, c'est qu'il n'y a pas de discontinuité. Le sommeil interrompt un processus. Mais pour l'insomniaque, il est lucide. Au milieu de la nuit, à n'importe quel moment, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est le même processus, c'est une sorte de temps interminable. C'est un autre monde, un autre temps, puisqu'il y a la vie supportable à cause de la discontinuité. Au fond, pourquoi on dort? On dort pour, non pas tellement pour se reposer, mais pour oublier. Le type qui se lève le matin après un sommeil, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Alors, à 8 h du matin, vous êtes dans le même état qu'à 8 h du soir, n'est-ce pas, la veille. Et toute la perspective sur les choses change nécessairement. Moi, je crois que si je n'ai jamais cru au progrès, je n'ai jamais été dupe de cette duperie, c'est aussi à cause de ça. Mais on a un autre sentiment du temps. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Et ça change votre vie. C'est pour ça que je considère vraiment que la plus grande expérience qu'on puisse faire dans la vie, c'est ça, c'est les nuits blanches. Et ça qui vous marque pour le reste de votre vie, pour l'existence. Et d'ailleurs, on comprend très bien leur torture d'avant, n'est-ce pas? Maintenant, je crois que ça n'existe plus. C'est les accusés, etc. On les empêchait de dormir. Au bout de quelques nuits, ils l'avouaient, n'est-ce pas? C'est le secret de la vie, c'est le sommeil, au fond. C'est ça qui rend la vie possible. Je suis absolument persuadé que si on empêchait l'humanité de dormir, il y aurait des massacres sans précédent, que l'histoire se finirait. Alors, ce phénomène m'a ouvert les yeux pour toujours, pour l'instant. Ma vision des choses, le résultat de ces veilles, j'ose dire le veille de l'esprit, mais enfin, c'est prétentieux, mais en fait, c'est un peu ça. Ce qui a fait que. Alors, phénomène très curieux, j'avais fait des études de philo et j'adorais la philosophie, et même le langage philosophique. Eh bien, cette superstition, parce que c'est une superstition, elle a été balayée par l'éveil. Parce que j'ai vu que ça ne pouvait pas m'aider. Ça ne pouvait pas, ça me faisait pas supporter la vie, pas surtout pas les nuits. Et j'ai perdu ma foi en philosophie. C'est à partir de ce moment-là que j'ai vu que la philosophie ne pouvait pas m'aider, que les philosophes étaient des gens qui ne peuvent rien me dire, qui dorment bien, n'est-ce pas, comme un type, c'est des constructeurs, en fait, des esprits positifs, dans le mauvais sens du mot. J'ai cessé de pratiquer de philosophe, mais pendant mes années, pendant 3 ans d'études de philosophie, je ne lisais que des philosophes. Et j'aimais le langage, tout ça, j'aimais tout. Et d'un coup, je me trouve au milieu d'un dame, il ne me servait de rien. Il y a un des philosophes qui m'a énormément aidé, c'est Chestov, je dois dire. Chestov a joué un très grand rôle dans ma vie, mais je dois dire qu'en Roumanie, Chestov était populaire, c'est ça qui est extraordinaire, on ne sait pas. Par exemple, Fondan, qui était le disciple de Chestov, mais je lui ai dit, écoutez, en Roumanie, Chestov était le philosophe le plus populaire. Et c'était la vérité. Ce n'est pas de voir comment c'est fait, mais c'est comme ça, ça tout de même correspondait. C'est aussi le côté russe, enfin, de tout ce monde-là, notre vision des choses. Mais il a existé une très, très grande influence. En tout cas, c'était le philosophe préféré, on peut dire. Surtout, il est venu. J'ai découvert Chestov au moment où j'étais déçu par la philosophie. Or, Chestov, qu'est-ce que c'est dans son essence? C'est l'insuffisance de la philosophie. Plutôt qu'un type passionné, je suis un type obsédé. C'est parce que si quelqu'un monte dans... Il faut que je puisse. C'est pas par les arguments qu'on peut me faire changer.
J'ai gaspillé heure après heure à ruminer sur ce qui me semblait éminemment digne d'être creusé, sur la vanité de tout, sur ce qui ne mérite pas une seconde de réflexion, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y aurait encore à dire pour ou contre l'évidence même. J'ai gaspillé heure après heure à ruminer sur ce qui me semblait éminemment digne d'être creusé, sur la vanité de tout, sur ce qui ne mérite pas une seconde de réflexion, puisqu'on ne voit pas ce qu'il y aurait encore à dire pour ou contre l'évidence même.
Chestov, qu'est-ce que c'est dans son essence? C'est l'insuffisance de la philosophie. Plutôt qu'un type passionné, je suis un type obsédé, n'est-ce pas? Si quelqu'un monte dans... Il faut que je puisse ça. C'est pas par des arguments qu'on peut me faire changer d'avis, c'est uniquement par la fatigue, par l'épuisement d'une obsession. Ça a du rapport avec la foi. Mais je considère que ce qui est important pour quelqu'un dans la vie, c'est les rencontres, les petites choses apparemment. Mais moi, j'étais toujours très sensible, j'ai toujours parlé aux gens, à des inconnus. J'ai énormément appris, je dois dire, par des rencontres. C'est ça qui est capital. Et surtout, j'ai une faible pour les types un peu dérangés. En Roumanie, de tous les types, par exemple, dans cette ville de Sibiu, une petite ville, en fait, c'est 100 000 habitants, malgré tout, je connaissais tous les types un peu tarés. Le poète aussi, naturellement, mais ils en font partie. Le côté morbide, il faut le dire, mais ça, c'est idiot de dire morbide, c'est pas morbide, parce que c'est... Et alors, il y a un autre phénomène qui est très balkanique, c'est le raté. Le raté, c'est un type très doué qui ne se réalise pas, qui promet tout et qui ne tient pas. Or, mes grands amis en Roumanie, ce n'étaient pas du tout les écrivains ou tout ce que j'ai connu, c'est des ratés. Un type qui a eu une très grosse influence sur moi, mais énorme, on peut dire, c'est un type qui avait fait des études de théologie, qui devait être prêtre. Et le dimanche où il devait se marier, parce qu'il ne pouvait être prêtre que marié, il était sorti pour aller à l'église. Et chemin faisant, il dit, mais c'est une folie. Et il a disparu. Il a disparu pendant des mois. Et on l'avait attendu toute la journée devant l'église. C'est un type qui n'avait aucun don. Qui ne pouvait pas écrire, qui lisait très peu, mais qui était un immense connaisseur d'hommes. Une sorte de psychologue inouï. Je n'ai jamais vu se tromper sur qui que ce soit. Et c'est pas seulement sur les hommes, sur le tout, il était d'une lucidité extraordinaire, criminelle, agressive, etc. Un des plus grands souvenirs que je garde de ma vie, c'était une rencontre, pas une rencontre parce que je le voyais souvent, c'était une nuit à Brasov. Nous sommes restés jusqu'à 5 heures du matin dans la rue. Et on a parlé de tout, etc. Eh bien, au bout de cette conversation, on était dans la rue, n'est-ce pas, toute la nuit. J'ai eu le vertige. Parce qu'on avait tout détruit ensemble. Tout. Et lui, il était plus fort que moi, n'est-ce pas, de loin. Mais tout. Et il m'a raconté un tas de choses, des secrets de sa vie. Et je ne veux pas dire que je lui dois beaucoup. Mais c'était quand même un interlocuteur très important pour moi. Parce que j'ai vu jusqu'où on peut aller. Lui, dans la négation, il était allé jusqu'à la limite. Pour moi, c'était un cas exaspéré de lucidité. C'est un cas exaspéré donc, et dangereux, au fond. Parce que la lucidité n'est pas nécessairement compatible avec la vie. Pas du tout, même. Mais pousser si loin, ça va au-delà du suicide. Vous comprenez, c'est vraiment le néant. C'est la conscience absolue du néant. Et ça, c'est pas compatible avec l'existence, il faut le dire. Alors, à ce moment-là, où on devient religieux, où on se suicide, où on ne sait pas ce qu'on peut faire, mais c'est une extrémité à laquelle je dois dire, j'ai eu accès, n'est-ce pas, plusieurs fois dans ma vie, enfin pas plusieurs fois, assez souvent, mais jamais avec l'intensité de ce type. Ensuite, ce qui était sympathique, c'était curieux, c'était un très gros type, il faisait très prospère. On imaginait tout sauf ça, mais il m'a démoli tout le monde. Nous avions beaucoup d'amis ensemble, tout. Et c'était pas un type méchant, c'était pas un salaud, mais c'est un type qui était incapable d'avoir la moindre illusion sur quoi que ce soit. Alors ça, c'est quand même une forme de connaissance. Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est la connaissance? On démolit quelque chose. Toute connaissance poussée jusqu'au bout peut être dangereuse et malsaine. Parce que, au fond, je parle de la vie, n'est-ce pas? C'est pas sur le plan philosophique. La vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Une entreprise n'est possible que si on a un minimum d'illusions. Autrement, c'est pas possible. Mais une amitié non plus, tout, c'est net. La lucidité complète, c'est le néant. Alors, ce type était allé jusque-là. Moi, je me rappelle, un jour, j'étais amouraché d'une femme, parce que j'avais connu comme ça une jeune femme. Et vous allez voir, il avait le côté démoniaque, le bonhomme. Et il a vu que j'étais très séduit par elle, et il m'a dit, est-ce que vous avez... C'est absolument insensé. Est-ce que tu l'as regardé, la nuque? Je ne sais pas comment c'est par là. Pourquoi? Il dit, regarde bien. Je trouvais ça une bêtise, une mesquinerie. Ça pas... Mais quand même, je l'ai fait. Mais elle avait un bouton assez... Et il m'a fait tout. Ça m'a tellement impressionné. Parce que c'est un démon. Vous comprenez? C'est un démon. Vous comprenez, c'était absurde que ce type puisse devenir prêtre, n'est-ce pas? Il a dû le sentir inconsciemment pour qu'il ait foutu le camp le jour du mariage. Tout ça, mais il avait une vision négative de la vie, si vous voulez. Mais la vision négative de la vie sur le plan de la connaissance n'est pas nécessairement une fausse connaissance. Seulement, c'est une vision incompatible avec la vie.
Est-ce qu'il appartient à ce spécimen au monde Balkan-Russie?
Oui. Plus, c'est évident. Ça veut dire que le manque de mesure, on va trop loin. L'Occident, qu'est-ce que c'est? La situation française, au fond, qu'est-ce que c'est justement toute l'idée de politesse, de ce truc-là, qu'est-ce que c'est? C'est des limites qu'on accepte par la réflexion. Il ne faut pas aller plus loin, ce n'est pas la peine, c'est mauvais goût. Dans les Balkans, c'est pas, on ne peut pas parler de civilisation, comme ça, il n'y a pas de critères non plus. Et surtout, il est porté à l'excès. On est porté à l'excès. Les Russes, c'est ça, ou la littérature russe, c'est à peu près ça. Et, par exemple, j'étais sensible au phénomène de l'ennui. Moi, je me suis ennuyé toute ma vie. Mais la littérature russe tourne autour de l'ennui. C'est le néant quotidien. Mais moi, j'ai vécu le phénomène de l'ennui, vraiment, peut-être d'une façon pathologique. Je me suis ennuyé, mais je voulais aussi m'ennuyer. Mais quand on s'ennuie partout, c'est fichu. Au fond, l'ennui, c'est axé sur le temps, sur l'horreur du temps, la peur du temps, la révélation du temps, la conscience du temps. Ceux qui ne sont pas conscients du temps ne s'ennuient pas. Et au fond, la vie n'est possible que si on n'est pas conscient du temps. Parce que si, par exemple, chaque moment qui passe, si vous en êtes conscient, c'est fichu. La vie devient un phénomène absolument insupportable. L'expérience de l'ennui, c'est la conscience du temps exaspéré. Tous nos actes, au fond. Nous connaissons nos actes, les êtres le connaissent aussi, mais ils en connaissent la superficie. Tout ce qui est formulé. Mais ce qui est important, c'est ce qui n'est pas formulé, ce qui est implicite. Et le secret de l'attitude et d'un propos, et de tout. C'est pour ça qu'au fond, tous nos jugements sur les êtres, et même sur nous-mêmes, sont partiellement faux. Parce que le côté mesquin est camouflé. Or, le côté mesquin est profond. Je dis même que ça, c'est ce qu'il y a de plus profond dans les êtres, chez les êtres. Et c'est ce qui est le plus inaccessible.
L'homme est libre, sauf en ce qu'il a de profond.
Le roman.
À la surface, il fait ce qu'il veut. Dans ses couches obscures, volonté et vocable dépourvus de sens. L'homme est libre, sauf en ce qu'il a de profond. À la surface, il fait ce qu'il veut. Dans ses couches obscures, volonté et vocable dépourvus de sens.
L'expérience de l'ennui, c'est la conscience du temps exaspéré. Tous nos actes, au fond. Nous connaissons nos actes, les êtres le connaissent aussi, mais ils en connaissent la superficie. Tout ce qui est formulé, mais ce qui est important, c'est ce qui n'est pas formulé, ce qui est implicite. Et le secret de l'attitude et d'un propos et de tout. C'est pour ça qu'au fond, tous nos jugements sur les êtres et même sur nous-mêmes sont partiellement faux. Parce que le côté mesquin est camouflé. Or, le côté mesquin est profond. Je dirais même que ça, c'est ce qu'il y a de plus profond dans les êtres, chez les êtres. Et c'est ce qui est le plus inaccessible. Les romans, c'est une façon de camoufler, de s'exposer sans se déclarer, vous savez, c'est ça. À mon avis, les grands écrivains sont ceux qui ont le sentiment de ces dessous, n'est-ce pas ? Et Dostoïevski surtout. Tout ce qui est profond et qui est apparemment mesquin, mais c'est plus que mesquin, c'est tragique. Et c'est ça, les vrais psychologues, c'est ça. Et un grand romancier. Je connais beaucoup de gens qui ont écrit des romans et qui ont échoué. Même Eliade, il a écrit beaucoup de romans, il a échoué. Pourquoi ? Parce qu'il ne rend que les actes. Il traduisent les phénomènes de la surface, forcément, et non pas vraiment l'origine. Mais c'est ça qui est important. C'est fait pour tous les phénomènes, pour la foi religieuse, pour tout. Comment ça a commencé, pourquoi ça continue. Le type qui a le génie de la divination, c'est pas, il est le seul capable de voir d'où ça vient. Parce que ça ne vient pas de raisonnement. Dostoïevski est le seul qui soit allé à l'origine des actes. Tous ces personnages, on voit parfaitement pourquoi ils ont fait ça et ça et ça, mais pas tout de suite. La plupart des romans, je ne peux pas les lire parce que ça ne m'intéresse pas du tout. Comment dire, les surfaces d'un acte ou d'une vision. Et ça n'a rien à voir, par exemple, avec la psychanalyse, ça c'est autre chose. Parce que la psychanalyse veut guérir, mais ce n'est pas ça qui est intéressant. Le démon qui est dans les êtres, c'est comment le saisir. Et c'est ça qui fait l'intérêt de la vie, au fond, aussi le commerce des êtres, tout ça. Autrement ça c'est un dialogue de fantoche. C'est le ton aussi qui est important. On a un ton, pas seulement comme musicien, savez, mais pour tout ce qu'on fait, n'est-ce pas? C'est, très souvent, ça manque d'un ton. Il y a le ton qui n'est pas. Ça, c'est vraiment mystérieux, parce qu'on ne veut pas le définir. Et on peut seulement le sentir. Vous ouvrez un livre, par exemple, vous en lisez une page, qui est remarquable. Pourquoi ça ne vous dit rien? Parce que pourtant, ça dit quelque chose, c'est pas nul, mais on ne sent pas les prolongements, on ne sait pas d'où ça émane. Il y a une sorte d'irréalité, au fond, dans tout ce qui est littérature, comme tout ça, c'est ce qu'on appelle le manque de nécessité. Mais pourquoi ce manque de nécessité? Alors, dans le commerce quotidien avec les êtres, c'est la même chose. Écoutez, vous rencontrez un type, vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous parlez pendant des heures, mais c'est le néant. Vous rencontrez d'autres, un type qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et ensuite, vous rentrez chez vous bouleversé. C'est ça la vraie originalité des êtres. Ce qu'ils cachent et qui transpercent malgré tout dans ce qu'ils disent.
C'est comme la musique.
C'est comme des gens, pour moi, quelqu'un qui dit que pour lui la musique ne signifie rien, moi je considère que c'est liquidé. Vous comprenez, je n'ai pas besoin de continuer. Ça se considère comme une chose extrêmement grave. Parce que justement, la musique touche exactement ça. C'est qu'elle est plus intime chez quelqu'un. Alors quelqu'un qui ne sent pas ça, mais qui n'a aucun point commun, c'est d'une gravité sans nom. C'est une sorte de malédiction dont le type n'est pas conscient. Bach, pour moi, c'est un dieu, c'est vraiment pour moi, un type qui ne comprend pas Bach, c'est liquidé. C'est même inconcevable pour moi. Mais pourtant, ça existe. Je crois que c'est la musique, c'est le seul art qui fait vraiment.
Après les variations Goldberg, musique super essentielle, pour employer le jargon mystique, nous fermons les yeux en nous abandonnant à l'écho qu'elles ont suscité en nous. Plus rien n'existe, sinon une plénitude sans contenu, qui est bien la seule manière de côtoyer le suprême.
C'est la musique seule. C'est absolument capital. On voit tout de suite que quelqu'un qui est indifférent à la musique, évidemment, c'est une infirmité énorme. C'est comme ça. J'admets très bien qu'un type dit « je n'aime pas ce poète ». Mais si je recommande un truc, « attendez ça, écoutez ça, ça ne me plaît pas », c'est très grave. Je pense que vous comprenez. C'est autre chose. C'est autre chose.
Quand est-ce que vous écoutez la musique?
Oh, tout le temps. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Maintenant, je n'écris plus. Je cesse d'écrire. Je considère que ce n'est pas la peine de continuer. Mais cette sécheresse, vous voyez, est comblée par la musique. Pour moi, la vie sur la musique est vraiment une absurdité, quelque chose d'inconcevable. On n'a pas besoin d'écrire parce que, de toute façon, on ne peut pas transcrire par des mots une sensation qui est d'ordre musical. Donc, rien de ce qui fait l'essence de la musique ne passe dans les mots. Et pourquoi écrire dans ces conditions? Pourquoi écrire en général? Pourquoi multiplier les livres? Pourquoi vouloir être à tout prix écrivain? Mais tout le monde écrit tôt, d'ailleurs. C'est le dame, pas contemporain, mais en fait, depuis longtemps. C'est surproduction inutile, absurde. Tout le monde écrit, surtout à Paris. C'est pourquoi? Et moi-même, je pensais que je n'allais pas écrire, ou très peu. Mais, vous savez, on se laisse prendre les choses. Et maintenant, j'ai compris que je ne pouvais pas continuer cette comédie. Ce n'était pas une comédie, parce que c'était une sorte de nécessité, je dois dire. C'était une façon de me débarrasser de moi-même, parce que il faut dire que la seule façon de simplifier tout, c'est de s'exprimer. Parce que ça perd tout son mystère. Dès que vous avez écrit une chose, c'est fou. Vous avez tué la chose et vous-même. Donc, ça remplit une fonction, ça, sans doute. J'ai remarqué que les gens qui n'écrivent pas, ils ont plus de ressources que ceux qui écrivent. Parce qu'ils ont tout en eux. Le type qui écrit, c'est un type qui se vide. Et au bout d'une vie, c'est le néant. Et c'est pour ça que les écrivains sont si peu intéressants. Non, mais c'est vrai, je le pense profondément. Parce que ce sont des types vidés d'eux-mêmes. Il n'y a que les restes d'eux-mêmes qui subsistent encore. C'est des fantoches. C'est ridicule, pourquoi multiplier les livres? Pourquoi? De toute façon, de quelqu'un ne reste que quelques phrases. Mais il faut dire que les journées sont trop longues, mais c'est ça. Ensuite, il faut dire que c'est aussi une question de vitalité. Aussi, il y a une sorte de vitalité.
Mes livres, mon œuvre, le côté grotesque de ses possessifs. Tout s'est gâté dès que la littérature a cessé d'être anonyme. La décadence remonte au premier auteur. Côté grotesque de ses possessifs. Tout s'est gâté dès que la littérature a cessé d'être anonyme. La décadence remonte au premier auteur.
On peut pas, je ne voulais pas vivre absolument en paradis, en parasite. J'ai compris qu'il fallait écrire, mais ça correspondait aussi probablement, c'est même sûrement à un besoin ça, de dire. Et j'ai publié donc mon premier livre. Ça c'est mon premier livre en français, n'est-ce pas? C'est le Précis des compositions. Et après, je vais continuer, mais enfin, je savais que. C'est ridicule, pourquoi multiplier les livres? Pourquoi, en effet? De toute façon, de quelqu'un ne reste que quelques phrases. Mais Il faut dire que les journées sont trop longues, etc. Ensuite, il faut dire que c'est une question de vitalité aussi. Il y avait une sorte de vitalité, au moins, besoin de manifester. Moi, j'étais totalement inconnu, vous savez, pendant tant de temps. Mes livres ne se vendaient pas du tout. Mais j'ai peut-être bien accepté cette condition. Ça correspondait aussi à ma vision des choses. Jusqu'au moment où tout a. Vous savez, on était arrivé au livre des poches. Et personnellement, je suis pour le livre des poches. Ça peut pas être paradoxal, mais. Parce que je trouve que c'est la seule façon de trouver vraiment. De toucher vraiment les lecteurs. Les seules années importantes, c'est les années d'anonymat. Vous savez, les années où. Parce que être inconnu, c'est une volupté. Ça, le côté amer parfois, etc. Mais moi, par exemple, pendant des années, on me présentait dans les salons, parce que il fut un temps où j'aimais boire du whisky, je ne pouvais pas, j'allais dans les réceptions comme ça. On me présentait partout comme ça, l'ami de Ionesco et de Beckett. Mais j'acceptais bien cette condition, pourquoi pas? Pourquoi être connu? Pourquoi
avoir choisi écrire en France?
J'avais pris la décision de ne plus jamais de ne plus retourner en Roumanie. Pour moi, c'était fini en ce terme. Tout ça, c'est vraiment du passé dans le sens absolu du terme. J'ai publié donc une petite déconvention en 1939. Alors, 3 ans avant, j'étais donc près de Dieppe dans un village et j'essaie de traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, il dit que c'est totalement inepte. Mais pourquoi? Je ne suis pas doué pour ça. Et c'est subitement, j'ai pris la décision. Il faut l'écrire en français. Alors, curieusement, j'avais négligé le français. J'ai beaucoup étudié l'anglais. J'ai suivi même les cours d'agrégation à la Sorbonne d'anglais. Et j'avais négligé le français. Et d'un coup, j'ai pris la décision d'écrire en français et ça s'est révélé beaucoup plus difficile que je n'aurais cru. Même ça a été un supplice. Non pas le premier jet, mais après, réécrire le livre. Et je l'ai écrit 4 fois, c'est le premier livre. Ça m'a même dégoûté d'écrire. Après avoir écrit ce livre, La Petite Décompression, je me dis, ça ne vaut pas la peine de se tourmenter comme ça. J'ai publié Syllogisme de l'amertume. Par fatigue, c'est pas la peine de faire des phrases, etc. Et ensuite, il faut dire que Paul Lang me sollicitait tout le temps pour que je collabore à l'NRF, etc. Je promettais avec tout, après avec déchirement pourquoi le faire, parce que suite, comme j'ai tenu ma promesse, je suis entré dans une sorte d'engrenage comme ça. J'admettais parfaitement que je sois à la périphérie, de façon complète. J'étais vraiment totalement inconnu, mais c'est pas désagréable du tout, finalement. Et c'est ça les vraies années. Vous savez, c'est l'écrivain sans lecteur, ça a des côtés désagréables, parce que sur le plan pratique, t'es souvent complet. Mais c'est ça la vraie écriture. Vraiment, ça, c'est, parce que vous avez l'impression d'écrire pour vous-même.
Je me demande quel est le pont dans votre pensée entre l'individu et l'histoire. Parce que si je vous ai bien compris, l'individu reste, donc le moi, ce moi lucide, tragique, reste la mesure de tout. Mais il n'y a pas de pont de moi à un autre, pas de pont absolu. Comme vous disiez avant, un des ponts qui est même très vague, c'est la musique. Mais il n'y a pas de pont, il n'y a pas de lien. Alors comment se fait le lien entre un individu et l'histoire?
Ça fait très mal. C'est très, très mal. Ça se fait par le malaise. Il y a vraiment le malaise comme solution. Je vais jusque-là. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. C'est pas du tout une attitude commode. C'est même pas fait. Comment dire, c'est un truc à éviter, je dirais. Mais ça, c'est. Ça, on peut dire qu'il y a un excès de lucidité qui rend la vie insupportable. Ça c'est certain. La vie n'est supportable réellement que si on ne tire pas les dernières conséquences.
Et à cette lucidité, est-ce qu'on échappe, par exemple, j'étais étonné que la pensée indienne devient importante dans votre œuvre dernièrement. Dans l'aveu et anathème, vous parlez beaucoup de nirvana. Est-ce que c'est une nostalgie d'une philosophie et d'une religion du sommeil?
Vous savez, ça c'est déjà je suis au-delà de ça aussi. J'ai dépassé même ça aussi. Mais ça jouait, ça remonte à 6, 7, 8 ans, ou même 10 ans, cette histoire de l'emballement pour... Mais j'ai toujours été un peu bouddhiste. Ça, si on peut l'être un peu, mais j'ai toujours été un peu. Ça veut dire que, pour vous dire la vérité, s'il fallait opter pour une foi, eh bien, je serais bouddhiste. S'il fallait, déclarez-vous, par exemple, si vous dites, écoutez, maintenant, il faut choisir, vous devez m'en refuser. Oui, le bouddhisme, c'est la religion qui me convient le plus, sauf certains points, mais semble être acceptable et même confortable. Je me fais pour les cimetières, mais c'est pas... Maintenant, les cimetières ne sont plus beaux, n'est-ce pas, c'est, ils sont surchargés, n'est-ce pas. Mais la formule, pour moi, vous savez, quand je vois des gens, des amis, n'importe qui passent par des moments de détresse, de désespoir, comme ça.
On a comparé le nirvana à un miroir qui ne reflèterait plus aucun objet. À un miroir donc à jamais pur, à jamais sans emploi. On a comparé le nirvana à un miroir qui ne reflèterait plus aucun objet. À un miroir donc à jamais pur, à jamais sans emploi.
À éviter, je dirais. Mais ça, c'est. Ça, on peut dire qu'il y a un excès de lucidité qui rend la vie insupportable. Ça, c'est certain. On a l'état du vivant. Et on continue comme ça.
Vous vous promenez beaucoup ?
Oui, oui.
Vous allez dans les cimetières ?
Je le fais pour les cimetières, mais c'est pas. Maintenant, les cimetières ne sont plus beaux, n'est-ce pas ? C'est, ils sont surchargés, n'est-ce pas ? Mais. La formule, pour moi, vous savez, quand je vois des gens, des amis, n'importe qui passent par des moments de détresse, de désespoir, et comme ça, je n'ai qu'un conseil, allez 20 minutes dans le cimetière, vous allez voir que votre chagrin sera non pas éteint, mais presque dépassé. L'autre jour, il y a une dame que je connais, enfin une dame, je ne sais pas, une jeune fille, que, t'es désespéré par le chagrin d'amour, t'es vraiment désespéré. Écoutez, vous n'êtes pas loin de Montparnasse, allez vous promener une demi-heure. Vous allez voir que votre perspective, enfin, votre chagrin sera tolérable. Et c'est vrai, en fait, c'est beaucoup mieux que d'aller voir un médecin, ou tout comme ça, c'est pas un médicament qui peut remédier à ça. C'est une leçon, c'est une leçon de sagesse. Parce qu'automatique, j'ai toujours pratiqué des méthodes pareilles, ça ne fait pas très sérieux, mais c'est relativement efficace. Parce que quelqu'un qui est dans le désespoir, qu'est-ce que vous pouvez lui dire ? Rien, ou à peu près rien. Mais là, on voit tout de suite c'est de quoi il s'agit. Et c'est vrai, moi, je suis assez compatissant, c'est curieux, mais en fait, c'est comme ça. J'étais sensible au désespoir des gens. Et j'ai toujours aidé les gens, c'est vraiment beaucoup plus qu'on ne peut penser. Parce que, au fond, quelqu'un qui est dans le désespoir, qui n'est pas habitué au désespoir, d'un coup, il est mis dans une position extrême, qu'il ne comprend pas, et qu'il ne peut pas expliquer, etc. Et moi, j'ai toujours essayé d'atténuer, d'écouter, voilà, il faut regarder les choses... De cette façon, c'est... justement, il ne faut pas dire ce qu'on dit du genre, mais il faut penser quoi à Dieu, il faut se dire non, il faut changer de perspective complètement. Et surtout, la seule façon de supporter la vie, c'est d'avoir la conscience du néant. Autrement, la vie n'est pas supportable. Mais si vous avez la conscience du néant, tout ce qui vous arrive garde ses proportions normales, c'est pas la vision démente qui existe dans les espoirs, n'est-ce pas, d'exagérer. C'était possible que je n'écrive plus. C'était possible parce que c'est... J'ai horreur de voir tous ces livres qui sont des auteurs, au moins un livre par an. C'est malsain, c'est pas bien, tout ça. Surtout qu'il faut peu écrire. Il faut savoir annoncer. Maintenant, ça m'amuse plus en un sens. Il faut de
à la moindre contrariété, et à plus forte raison, au moindre chagrin, il faut se précipiter au cimetière le plus proche, dispensateur soudain d'un calme qu'on chercherait vainement ailleurs. Un remède miracle, pour une fois.
Parce que c'est... J'ai horreur de voir tous ces livres qui sont... Les auteurs, au moins un livre par an. C'est malsain, c'est pas bien, surtout. Surtout qu'il faut peu écrire. Il faut savoir renoncer. Maintenant, ça m'amuse plus, en un sens. Vous comprenez? Il faut de minimum, pas d'enthousiasme, mais en fait, il faut qu'il ait une attente. Parce que entre... Quand on sait bien écrire un livre, il y a une sorte de complicité, comme le livre était extérieur à vous. Vous comprenez ? Et c'est une sorte de conspiration à deux. Et ensuite, je me suis dit que j'en ai assez de pester contre le monde et Dieu. Et ça, c'est pas la peine.
Mais en pensée, vous pestez encore ?
Moins. Moins, forcément. Il y a une forme de résignation qui est le fruit de l'âge, je sais pas, de tout. Surtout, la fatigue est à très réel. Bon, il faut tenir compte. Mais tu vois, on peut écrire, on peut tout dire. Premièrement, il ne faut pas tout dire. Pourquoi? De toute façon, il n'y a que quelques phrases qui restent de l'auteur. On peut toujours écrire. Mais alors, si vous écrivez toujours, et s'il n'y a plus la nécessité intérieure, ça c'est de la littérature. Et c'est ça, je ne veux pas. J'ai toujours cru, ça c'est mon côté naïf, j'ai toujours cru dans ce que j'ai écrit. Parce que ça c'est pas bien, ça c'était en contradiction avec ma vision des choses. Mais en fait, tant pis, c'est comme ça. Je me suis dit, il ne faut pas tricher. Mais au fond, dans l'absolu, qu'est-ce que c'est? Si on triche, qu'est-ce que c'est? Tout revient au même. Mais la conscience du néant, on peut avoir cette conscience, mais malgré tout, on ne peut pas en tirer toutes les conséquences. Par exemple, il est évident que si on a la conscience du néant, c'est absurde d'écrire un livre. C'est ridicule, même. Mais pourquoi éprouver quoi? Pour qui? Pourquoi? Mais il y a des nécessités intérieures qui échappe à cette vision, qui c'est une autre nature, c'est plus intime, c'est plus mystérieux, c'est irrationnel, parce que la conscience du néant n'est compatible avec rien, avec aucun geste, il n'y a aucune, aussi l'idée de fidélité, en quoi que ce soit, tout fout le camp. Mais ce qu'il y a de mystérieux, c'est cette vitalité qui vous pousse à faire quelque chose. Et peut-être c'est ça la vie, c'est pas ce qu'on pourrait employer des grands mots. C'est qu'on fait des choses auxquelles on adhère sans y croire. C'est un peu ça.